Il est exactement 18h dans ce studio, même heure partout au Mali. Auditeurs et auditrices, bienvenue sur votre émission humanitaire Faboudirène, place au titre.
Impossible de circuler dans les grandes villes du pays sans tomber sur les enfants mendiants. Ils sont sur les voies publiques, aux ronds-points et aux feux tricolores et font souvent des porte-à-porte.
Pour parler de leur situation et de ce qu'ils peuvent encourir dans leur vie future, nous allons entendre Dr Amadou Bédiara, expert en santé sociale, communautaire et comportementale.
Notre modèle de réussite nous envoie à Bankas pour découvrir un soudeur spécial.
Draman et Mariam Meiga pour le développement de ces titres. À la technique, Adjaratou Traoré. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Mariam, bonsoir à toi aussi d'abord.
Bonsoir Draman.
Ça va, la semaine, le week-end, il paraît
toujours
que...
Toujours chargé.
Ah mais toujours, tout de suite dans les coulisses, là, c'était
oui,
pas ce
Draman,
que tu disais.
Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça ne transforme pas. Est-ce que tu as une fois vu une semaine assez fluide comme ça? Nous, c'est toujours sans alerte. Est-ce que l'info qu'on a un repos, c'est une denrée périssable? Donc, on est obligé d'être à la veille tout le temps pour informer nos fidèles auditeurs. Et c'est grâce à eux également que nous existons.
Exactement, Mariam. Comme tu l'as si bien dit tout de suite, c'est pour eux et grâce à eux que nous sommes là aussi. Alors, comme annoncé dans les titres, on parlera aujourd'hui de la mendicité.
Effectivement, la mendicité est un phénomène récurrent dans notre société depuis belle lurette. L'insécurité, la pauvreté, la dimension traditionnelle et religieuse sont entre autres raisons qui expliquent l'accentuation du phénomène selon des observateurs.
Mariam, ils ajoutent par ailleurs que ce fléau est alarmant, mais aussi dangereux pour la société.
La mendicité et comment affaiblir le phénomène, c'est le thème de notre magazine, une réalisation de Khalifa Goïta avec l'appui de nos correspondants.
Tous les matins, dans la journée et même dans la soirée, on aperçoit des enfants mendiants sur les grandes artères, dans les carrefours, surtout dans les grandes villes. Ils se faufilent entre les véhicules à la recherche de nourriture ou de l'argent. Dans cette quête, certains sont victimes d'accidents de la circulation. Le plus souvent envoyés par leurs parents pour étudier le Coran, ces enfants sont à leur tour au sort des maîtres coraniques. Voici la vie de certains enfants talibés rencontrés à Bamako et Mopti.
Je suis un Ivoirien. Mes parents m'ont envoyé à Bamako chez un maître coranique. Ce que je gagne en mendiant, je le donne au maître. On étudie très tôt le matin. À partir de 8h, on commence la mendicité. À 14h, nous retournons pour étudier encore. Ce sont mes parents qui m'ont envoyé à Mopti. C'est important pour nous car nous allons apprendre aux gens à savoir bien prier.
On étudie et on fait la mendicité aussi. Nous allons pouvoir mémoriser le Coran. Je viens de Sigasso. Nous venons en ville pour manger. Quand on est fatigué, nous nous reposons avant de rentrer à la maison. Ce que l'on gagne en mendiant, on le partage avec le maître coranique.
Des chefs de famille témoignent et regrettent cette façon de faire des enfants mendiants. C'est le cas de Issiaka Traoré à Kadjolo. Il pense que cela peut prendre fin par la volonté de tous les parents.
Nous donnons nos enfants au maître coranique pour étudier et apprendre le Coran et connaître la religion musulmane. Ici à Kadjolo, j'avais donné un de mes enfants à un maître coranique. Bien avant, je lui ai demandé de me dire tout ce dont l'enfant aurait besoin pour qu'il ne puisse pas tomber dans la mendicité. J'ai donné tout ce qu'il m'a demandé. Mais un jour, je vis mon enfant dans la rue en train de mendier. J'ai vite interpellé le maître coranique. Il m'a fait savoir que tous les enfants qui étudient chez lui sont obligés de passer par ce chemin. Je n'étais pas content. J'ai retiré mon enfant en l'amenant au médrasa. J'encourage tous les parents à faire comme moi pour finir avec cette pratique.
En plus des enfants talibés, des personnes vivant avec handicap, des veuves, des personnes âgées font la manche en circulation. Pour d'autres aussi, l'insécurité en est la cause principale. Écoutons la réaction de Madame Déné Tembeli, une déplacée à Bandiangara.
Nous sommes installés à Bandiangara à cause de l'insécurité. C'est vrai que nous avons des difficultés, une situation qui pousse certains de nos frères à la mendicité, mais pas nos enfants. Je pense que ceux qui font de la mendicité manquent de beaucoup de choses, notamment le travail. Or, il faut de quoi se nourrir. Nous autres, nous nous débrouillons pour satisfaire nos enfants.
Pour Daouda Sako, vice-secrétaire général de l'Association des parents d'élèves du Mali, l'insécurité a beaucoup impacté la vie de nombreux enfants dans ce sens.
Mais quand même rare quand même, de voir quand même des élèves en situation plus ou moins normale dans la mendicité, mais le plus souvent, c'est une frange de la société qui vit un problème particulier. Je prends par exemple l'insécurité. Avec l'insécurité, le nombre de mendiants a fortement augmenté dans les grandes villes. Il y a le phénomène culturel aussi, bon, c'est religieux.
Par ailleurs, Monsieur Sako déplore le comportement des hommes et femmes qui s'adonnent à cette pratique en exploitant les enfants. Pour lui, ceci est synonyme de prise d'otage de l'avenir des enfants.
Éloigner les enfants de l'école, tant qu'il y ait une cause vraiment valable pour les verser dans la mendicité, nous, en tant que parents d'élèves, on ne peut pas vraiment cautionner de tels phénomènes dans notre société. Et l'enfant, vraiment, sa place, c'est à la maison, à l'école. Mais nous sommes tellement limités dans ce domaine qu'on voit avec le cœur meurtri. C'est devenu comme une profession pour certains. Des enfants qui sont scolarisables, mais se retrouvent dans la rue. Ça peut avoir des conséquences graves, parce que avec 100 francs, 200 francs, 300 francs, mais quand ils vont avoir 15, 20 ans, mais n'ayant rien appris à l'école, n'ayant pas de métier, ce sont des brigands qui naissent comme ça. Donc c'est la société qui va finir par payer le prix.
De son côté, les responsables du Parlement national des enfants du Mali sont conscients des défis du fléau, même si des efforts sont faits. Ils exhortent le gouvernement et tous les défenseurs des droits des enfants à plus d'engagement pour stopper la mendicité. Imran Ag Mohamed El Maouloud, président du Parlement des enfants.
Nous ne cessons de constater et de voir qu'un bon nombre d'enfants ici à Bamako, plus majoritairement dans les régions, sont exposés à ces graves phénomènes-là et qui met également leur vie en danger. Donc c'est un concept très alarmant. Ce phénomène reste toujours un défi pour le Mali, malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires. Ce que le Parlement des enfants fait, c'est toujours de faire une sensibilisation et surtout un plaidoyer auprès des autorités ainsi que de l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la promotion et de la protection du droit de l'enfant.
Nos tentatives pour avoir la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille sont restées vaines.
Un reportage signé Khalifa Goïta avec l'appui de nos collègues à l'intérieur du pays. Mariam, donc, il faut comprendre que la situation sécuritaire de ces dernières années a aussi accentué ces phénomènes dans les capitales régionales.
Et oui, selon des experts, l'insécurité est l'une des causes principales de la multiplication de ces enfants dans les grandes villes du pays.
Justement, notre expert du jour est Dr Amadou Bédiara. Il est expert en santé sociale, communautaire et comportementale. Nous avons échangé avec lui sur la mendicité des enfants. Suivons la première partie de notre discussion.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs enfants s'adonnent à cette pratique?
Merci beaucoup. La situation de ces enfants qui sont dans la rue, donc notamment certains appellent ces enfants les enfants mendiants. Vous savez que, autrement, certains les appellent les talibés. C'est des enfants qui viennent chez les maîtres coraniques. Donc, les parents donnent leurs enfants à ces maîtres coraniques pour qu'ils puissent apprendre le Coran, avoir les instructions coraniques. Et c'est à travers ça que ces maîtres coraniques mettent ces enfants-là à profit, donc pour aller mendier. Donc, et ce qui ressort dans ça, ça les permet de survivre et de financer certaines choses de leurs maîtres. Pourquoi vous voyez, dans ces temps-là, il y a beaucoup d'enfants mendiants dans la rue à Bamako. Avec la situation de crise au nord, vous savez qu'il y a beaucoup de ces maîtres coraniques qui sont soit au centre du Mali et souvent au nord. La plupart, c'est les pulls. Donc, avec l'insécurité, le déplacement massif de ces pulls-là vers les capitales régionales et ainsi qu'à Bamako. Donc, ils viennent avec ces enfants. Et également, s'ils viennent aussi en ville, il y a certains aussi qui partent aussi confier leurs enfants en ville. Donc, c'est le déplacement massif de ces maîtres coraniques vers les capitales régionales, notamment la ville de Bamako, donc qui explique qu'on a beaucoup plus d'enfants mendiants maintenant dans les rues de Bamako. parce que c'est l'incertitude qui a fait que ces maîtres coraniques ont effectué des déplacements pour venir s'installer dans les alentours de Bamako et même souvent dans les sites déplacés. Donc, ils sont obligés de vivre de ce qu'ils savent faire pratiquer comme métier. Donc, leur métier, c'est donner des instructions, des éducations coraniques aux enfants. Donc, s'ils viennent, ils continuent avec les mêmes pratiques. Donc, c'est un peu ça.
Est-ce que quand ces enfants vont grandir, ça ne va pas impacter côté santé sociale, comportement de la vie en société, entre autres? Est-ce que ça ne va pas impacter leur vie future?
Merci. Au fait, avant d'avoir même l'âge adulte, ces enfants sont exposés à des énormes risques. Si on dit des risques, il y a d'abord les risques liés à leur état de santé. Donc, quand tu vois ces enfants, c'est des enfants qui sont sales. Donc, il y a un problème d'hygiène qui se pose. Et ils développent beaucoup plus de maladies dermatologiques qui sont liées à l'hygiène, soit à l'hygiène corporelle, soit à l'hygiène de l'habillement. Donc, et là où ces enfants dorment aussi, donc, il y a aussi des risques de sécurité. Donc, ça, c'est un premier aspect. Ces enfants aussi, souvent, ils sont amenés à manger toutes sortes d'alimentation. Donc, s'ils tombent malades aussi, ils ont un accès très limité aux soins de santé. Donc, c'est des enfants qui courent d'énormes risques. Et à côté, il ne faut pas ignorer aussi les accidents de la route. Parce qu'on voit dans la longueur de la journée, au niveau des feux tricolores, en faisant leur activité, donc il y a les motocyclistes, les véhicules. Donc, souvent, si on est au niveau des hôpitaux, donc on reçoit ces enfants-là, accidentés-là, qui n'ont même pas de famille, qui n'ont même pas de représentants, et on est obligé de les confier aux agents de services sociaux, donc pour assurer leur prise en charge. Donc, ils sont confrontés à des énormes risques pendant leur activité. Donc, quand ils deviennent adultes, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, la plupart de ces enfants, surtout en ville, en menant ces activités, ils peuvent être tentés à voler, ils peuvent être tentés à partir derrière des enfants, certaines catégories d'enfants de la rue qui sont à Bamako, qui s'adonnent à des activités de délinquance ou autre chose, l'utilisation des stupéfiants, des drogues, donc ils peuvent utiliser ça. Et pendant l'adolescence, qui est un moment très crucial dans le développement de l'enfant, ces enfants-là peuvent être virés vers ces activités et ils peuvent devenir des délinquants et puis dangereux pour la société. Et s'ils deviennent des délinquants dangereux pour la société, c'est très dangereux parce que c'est des enfants qui n'ont pas évolué dans un environnement familial, ils n'ont pas de sentiments. Donc, c'est des enfants qui sont capables à faire toutes sortes de crimes contre la société. Donc, ça, c'est le côté négatif. Le côté positif dans toutes choses, il y a aussi un côté positif. Donc, les enfants qui apprennent correctement, donc, certains peuvent réussir. Voilà, donc, c'est des gens qui ont reçu, qui sont avertis, qui ont reçu beaucoup de coups durs de la vie, qui ont vu beaucoup de choses. Donc, peuvent aussi donner des conseils, donner des instructions, peuvent être des maîtres coraniques, donc, pour continuer avec les mêmes activités.
Mariam Moussa Hari Meiga.
Oui, Draman, pourquoi dire tout mon nom comme ça? Mariam Meiga suffit largement.
Ah, mais ce que nous venons d'apprendre, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette première partie?
Ça fait froid dans le dos, ça fait peur et ça fait pitié également. La situation est vraiment dure pour ces enfants. En plus, ils sont sujets à plusieurs risques, notamment les enfants qui déambulent en circulation peuvent être victimes d'accidents. Ça fait vraiment peur.
Alors, pour comprendre comment venir en aide à ces enfants et diminuer ces fléaux, restez à l'écoute car des conseils sont à venir dans la seconde partie de notre échange avec l'expert. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission, mais en attendant, nous allons faire un tour à Bankas Mariam.
Eh oui, Draman, nous sommes à Bankas et c'est pour aller à la rencontre de Daouda Dao. Il est déplacé, il n'aime pas s'asseoir pour ne rien faire. Il a décidé de faire un métier pour se prendre en main.
L'activité qu'il mène, il la mène avec passion et détermination qui stimule l'innovation et crée un impact positif dans la société.
Allons à la découverte de Daouda Daouen, déplacé interne à Bankas depuis plus de 2 ans. Il évolue dans la soudure. Khalifa Gouita pour plus de précisions avec l'appui de notre correspondant Adama Dele Togo.
Nous voici dans l'atelier des soudures de Daouda Daou à Bankas. Ce chef de famille a quitté Dialassagou pour s'installer à Bankas à cause des violences des groupes armés. La soudure, un métier qui lui tient à cœur depuis belle lurette. Son séjour à Bankas se passe bien surtout avec l'ouverture d'un atelier qu'il a pu faire. Pour lui, il est de son devoir de contribuer au développement de sa localité d'accueil après des épreuves.
Après les attaques contre notre village, nous étions dans l'obligation de venir s'installer à Bankas. J'ai ouvert cet atelier de soudure dans l'idée de former le jeune déplacé. C'est une manière pour moi de lutter contre le chômage et d'aider le jeune pour qu'il soit indépendant un jour. J'ai ouvert l'atelier avec mes propres moyens. Des ONG viennent souvent faire des recensements et les enquêtes sans m'appuyer. Cette activité me permet d'avoir le prix des condiments et assurer les besoins de mes enfants.
Pour notre interlocuteur, travailler, c'est garantir un avenir meilleur aux plus jeunes.
Les difficultés sont liées au fait que nous sommes obligés de payer les loyers, l'eau, l'électricité et la nourriture à la fin de chaque mois. Une chose qu'on ne faisait pas au village. Pour l'amélioration de mon travail, l'aide des ONG sera la bienvenue, notamment pour les matériels. Cela facilitera beaucoup la formation de jeunes. Et ceux-ci pourront aider d'autres personnes dans le futur. Pour moi, lorsque les jeunes sont dans des petits métiers, c'est sûr qu'ils ne se retrouveront pas dans des pratiques malsaines.
À Bankas, Daouda est connu grâce à sa créativité et son esprit d'entreprise remarquable. Séduit par son travail, Omar Guino Di Laurent est donc devenu un de ses fidèles clients.
Je suis venu acheter des chaises et fenêtres chez Daouda. Le fer qu'il utilise est de qualité et son travail est également bien fait. C'est pourquoi au besoin, je viens chez lui. Il n'est pas cher. Ces chaises en fer et en plastique sont de bonne qualité. J'invite toutes les personnes qui font ce travail à imiter Daouda parce que le travail bien fait est toujours récompensé. Ça permet d'avoir de la clientèle.
C'est une lecture positive que fait la famille d'accueil sur Daouda. Pour Brema Guino, les déplacés internes méritent plus. Selon lui, l'accompagnement de part et d'autre ne doit pas faire défaut.
Je suis le petit frère du chef du village. C'est nous qui les avons accueillis. Pour être sincère, nous n'aimerions même pas qu'il retourne parce que beaucoup de nos enfants apprennent avec lui. Il ne nous cause aucun problème. Ce fut un honneur pour nous d'accueillir les déplacés. C'est une valeur de notre société, accueillir un étranger. J'encourage les ONG à les aider.
Tout début est difficile, mais sans début, pas de fin, dit-on dans un adage. Alors, chers déplacés internes, osons entreprendre.
Ah, Mariam, comme pour dire, le tableau n'est pas que sombre pour les déplacés internes.
Effectivement, et c'est réjouissant. De plus en plus, nous avons des cas de réussite de ce genre, des déplacés qui ont compris qu'il ne faudrait pas s'asseoir pour attendre simplement de vivre des aides que les ONG ou des partenaires donnent, travailler également pour venir en aide à sa famille, aider sa famille à s'en centrer également.
Et c'est sur ces mots, nous vous rappelons que vous suivez Studio Tamani sur les antennes de nos radios partenaires à travers le pays et sur nos différentes plateformes d'information. Place maintenant à la deuxième partie de notre échange avec l'expert du jour.
En tant que docteur ou en tant qu'expert en santé sociale, communautaire et comportementale, qu'est-ce que vous conseillez aux parents et aux uns et aux autres pour récupérer ces enfants?
Merci. D'abord, je conseillerais avant d'abord les parents, l'État, c'est-à-dire les services techniques, on doit essayer quand même de réglementer vraiment cette pratique. Parce que ce n'est pas réglementé et il n'y a pas de conditions, les conditions requises pour créer ces écoles ne sont pas réglementées. Donc, la protection de ces enfants, ça passe d'abord par ça. Donc, quand on parle de protection des enfants, il y a tout ça là aussi dedans. Et je pense que notre pays s'est engagé à signer la Convention de Genève relative à la protection des enfants. Donc, ça rentre toujours dans ce cadre-là. Donc, pour protéger les enfants, il faut avoir un cadre réglementaire et législatif pour très bien les protéger. Et pour les parents, ce n'est pas interdit d'envoyer les enfants vers ces maîtres coraniques, Mais il faut, ce que je les conseille, il faut quand même faire la part des choses. Et il ne faut pas envoyer chez quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut envoyer chez quelqu'un que tu connais. Si je dis connais, il faut que tu puisses savoir là où la personne loge et quelles sont les conditions des enfants qui sont chez la personne. Je donne un exemple. J'ai eu à effectuer des déplacements chez certains maîtres coraniques qui sont à Bamako et à l'entour de Bamako. Mais je vous avoue que c'est comme si c'est une école. Les enfants sont chez lui, ils sont à l'internat, ils ont un programme d'apprentissage. Même souvent, si les enfants sortent pour aller manger, comme ils disent que c'est le courant qui exige qu'un apprenant doit sortir comme ça aussi pour aller manger. Mais ils ont aussi des airs aussi pour ça. Et les maîtres coraniques, ils indiquent aussi des quartiers ou des localités à des gens, à ces élèves. Et ils les demandent à des heures, il faut quitter chez moi à telle heure, il faut revenir à telle heure. Donc je pense que certains sont maintenant dans ça. Ce que je demande aux parents, c'est d'être vigilants, ne pas envoyer les enfants seulement parce que je les ai envoyés chez un maître coranique. Il faut d'abord bien identifier la personne, bien localiser la personne, et puis avoir des informations sur quand même comment les autres enfants qui sont là-bas pour apprendre leurs conditions de vie. Et de temps en temps, il ne faut pas faire un mois, deux mois, 100% vraiment prendre les nouvelles de l'enfant. Et suivre l'enfant, si l'enfant est malade, donner les moyens au maître coranique pour traiter les enfants, pour soigner les enfants. Ou bien aller chercher l'enfant pour amener, pour que l'enfant puisse recevoir les soins de santé appropriés. Donc, c'est quelques conseils que je donne aux parents et au maître coranique. Donc, savoir que ces enfants, si quelqu'un te confie son enfant, tu dois prendre comme ton propre enfant. Donc, non seulement de protéger ses enfants pour que les enseignants ne puissent pas avoir ces risques sanitaires, ces risques liés à l'accident et ces risques psychosociaux pour que ces enfants ne puissent pas avoir ça dans leur futur, c'est-à-dire quand ils vont avoir l'âge adulte. Et ensuite, ces maîtres coraniques, je les demande aussi de protéger ces enfants parce que les parents amènent ces enfants, ils doivent veiller à ce que ces enfants puissent être dans les bonnes conditions de santé et d'hygiène pour mieux apprendre. Parce que si ces enfants-là sont en bonne santé, ils peuvent mieux apprendre et ils peuvent servir leurs parents qui les ont envoyés à l'école, ils peuvent mieux servir les maîtres coraniques et ils peuvent même servir toute la nation.
C'est sur ces conseils que prend fin l'échange avec Dr Amadou Bedjara, expert en santé sociale, communautaire et comportementale. Merci à vous, docteur.
Merci beaucoup. Très bonne journée.
Des choses à ajouter?
En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup appris, notamment qu'un enfant également, sa place, c'est pas dans les rues. Un enfant a une place spéciale également. Et pour affaiblir ce phénomène de mendicité, il faut l'apport de tous.
À présent, Mariama, nous allons essayer de souffler un peu en musique.
Et c'est à travers notre rubrique « Artiste de la semaine ». Aïssata Diarra est parti nous dénicher un jeune talent du nom de Tima Maïga.
Allons à sa découverte.
C'est Fatouma Maïga, on m'appelle Tima.
Vous êtes une juge de Ngouani, c'est ça?
Exactement.
Alors, depuis quand vous faites ce métier?
Je peux dire que j'ai commencé à jouer le Ngouani, ça fait 3 ans.
Est-ce que c'est à travers une formation? Comment est-ce que vous êtes venue dans ce monde?
J'ai appris le Ngouani au conservatoire. C'est par amour. Depuis fort longtemps, moi, j'aimais vraiment cet instrument. On m'a toujours dit que c'est réservé qu'aux hommes, que c'est seulement les hommes qui ont vraiment droit à jouer cet instrument. Donc, quand je suis allée au conservatoire, j'ai décidé de prendre le Ngouani comme mon instrument traditionnel. Et maintenant, après le conservatoire, maintenant, je me suis approchée aux autres joueurs du Ngouani pour plus de performances et de formations.
Depuis que vous jouez cet instrument-là, est-ce que vous avez eu des difficultés?
Les difficultés, c'est les polémiques qu'il y a autour et tout. À part ça, moi, je pense que ça va.
Cet instrument-là, ça vous parle? Est-ce que ça dégage des messages ou bien comment...
Beaucoup. Le son du Nguni, déjà, c'est comme une thérapie. Déjà, c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est de haut niveau.
Alors, avec le Nguni, est-ce qu'il vous arrive de passer des messages? Mais si c'est le cas, quel genre de messages?
Tous les messages qui concernent à peu près la société. Que ce soit avec le Nguni ou pas, franchement, tous les chansons que moi je fais, c'est pour passer des messages.
Est-ce que vous parlez généralement des déplacés internes et les réfugiés, est-ce que vous parlez d'eux souvent?
Oui, même si ce n'est pas directement, je parle quand même des aides humanitaires.
Alors Tima, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous jouer une note de Nguni?
Bien sûr.
Tantôt que la musique, c'est même une thérapie pour elle.
Et effectivement, mais moi je retiens que la musique n'a pas de frontières. Tu viens de voir que le Nguni a quitté le Wassoulou pour aller se retrouver au nord du pays. Nous sommes un peuple.
Ça montre que oui, toutes les communautés sont unies
dans notre diversité.
Mais notre culture, nos traditions nous unissent.
Effectivement, je ne pourrais pas en dire mieux.
Mariam Sedjungel nous amène vers notre dernière rubrique, le proverbe de la semaine.
Notre proverbe du jour dit « La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ».
Et pour avoir plus d'explications sur la signification, écoutons le traditionnaliste Nouhoum Cissé, connu sous le pseudonyme Banyengo, suite à un rôle qu'il a joué dans un sketch. Mariam, il est au micro de Kwanjara.
Le premier sens, c'est que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. On le savait très bien et c'est supérieur à ça parce que quand on essaie d'obtenir quelque chose, on ouvre la paume de la main et celui qui te donne est obligé de maintenant, au-dessus de ta main ouverte là, maintenant de te donner. Donc toujours la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, c'est très clair. Mais il y a un autre sens, quand on donne, quand celui qui donne, il a un certain pouvoir, il a une certaine capacité. Celui qui reçoit, c'est l'expression de la soumission, c'est l'expression de l'infériorité, c'est l'expression de la pauvreté, c'est l'expression d'une situation de détresse dans laquelle on demande une intervention. Ça peut être un sens négatif et d'accaparement. Il a une intention de colonisation, par exemple. Il a une intention d'acheter. Et ça, c'est le sens négatif. Pour celui qui reçoit en ce moment, peut avoir deux intentions. Soit je prends ça, mais je ne veux pas respecter ce qu'il va me dire. Je vais le trahir. Soit je prends ça, mais tout compte fait, c'est lui qui m'aide à me faire sortir de cela. Ça dépendra entièrement de la moralité de celui qui reçoit.
La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, Draman. Ça te dit?
Oui, ça veut dire qu'on ne doit pas rester à quémander à chaque fois. On doit essayer de se battre, s'élever et travailler après avoir reçu des aides.
Et autrement dit également, à chaque fois quand on demande quelque chose à quelqu'un, on est à sa merci également. Difficile de dire non à quelqu'un qui te tend toujours la main. Donc, il faut apprendre des fois à se prendre en charge. C'est bon de demander, mais quand on demande service une fois, deux fois, il faut savoir prendre ce service-là, faire quelque chose soi-même pour se prendre en charge.
Et c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir cette semaine. Cette émission vous a été présentée par les duos Draman et
Mariam Maïga.
Vous pouvez réécouter cette production et tant d'autres sur notre site web www.studiotamani.org.
Grand merci à vous, nos auditeurs, pour la confiance renouvelée au quotidien. Et merci à vous qui nous suivez partout dans le monde à travers notre site internet ou encore sur notre page Facebook. Ne décrochez pas car tout à l'heure, vous aurez la version en Bambara.